Alors Emmanuel Huyn, vous êtes danseuse, chorégraphe, alors jeune chorégraphe on pourrait dire, puisque vous avez signé moins d'une dizaine de pièces, ou une dizaine à peu près. Et pourtant, depuis ce qu'on peut considérer comme votre premier solo, Mua, donc, d'où le titre de notre entretien aujourd'hui, Mua, c'était en 94, vous vous affirmez comme une des chorégraphes françaises de premier plan. Alors cela tient, je pense, à la spécificité de votre travail, qui est un travail exigeant, qui systématiquement, de pièce en pièce, va remettre en jeu les acquis et les présupposés de la danse. Cette danse, vous cherchez à en éprouver les limites, vous ne cessez de la confronter à d'autres disciplines et pratiques artistiques, jusqu'à repousser les bords du chorégraphique, sans pour autant abandonner le mouvement. Et là, c'est assez important parce que je précise cela sans abandonner le mouvement, puisque vous apparaissez sur la scène chorégraphique au milieu des années 90, on y reviendra cette semaine. C'est un moment clé pour l'histoire de la danse française et européenne. C'est un moment où l'esthétique spectaculaire dominante de la danse des années 80 commence à s'essouffler et où on voit apparaître des propositions autres qui sont recentrées sur le corps, sur l'individualité de l'interprète, sur son histoire, sur l'histoire de la danse, des propositions qui vont questionner les modes de représentation et de production. Alors ce sont des propositions qui ont été portées par des chorégraphes tels que Jérôme Bell, Xavier Leroy, Alain Buffard, Boris Charmat, vous-même, dans des esthétiques différentes. On a parlé de nouvelles générations, puis l'expression a changé, il a été question de formes émergentes, puis de danse conceptuelle. Quelques-uns ont récemment risqué l'expression non-danse, ce qui en dit long, Emmanuel Huyn, sur la difficulté de réception d'une esthétique que je qualifierais de déceptive. Alors aujourd'hui, vous êtes la première de cette génération, si on veut garder le terme génération, même si il n'est pas véritablement opérant. Vous êtes donc la première à passer du côté de l'institution. On est aujourd'hui chez vous à Paris, quelques jours avant votre déménagement, puisque c'est à Angers que vous allez vous installer désormais, en tant que directrice du Centre chorégraphique national donc d'Angers et de son école. Au cours de cette semaine, ce que je vous propose, c'est de prendre comme fil rouge vos pièces chorégraphiques et de voir comment elles traversent et comment elles rencontrent votre propre histoire et comment elles dessinent votre parcours chorégraphique. Alors peut-être avant de rentrer dans leur matière, on pourrait se plier à un exercice, l'exercice d'une fiche d'identité, donc le nom.
Huyn Tan Loan, exactement, si je prends le nom entièrement tel qu'il est écrit au Vietnam, et Emmanuel Huyn, si je prends la version française, puisque je suis de père vietnamien et de mère française. Donc Huyn, il n'y a pas de signification. Tan Loan, donc le prénom vietnamien, c'est oiseau bleu, donc peut-être une prédestination à la danse, mais pas à la danse classique, malheureusement, même si je suis formée au classique. Et Emmanuel, je ne sais pas, famille catholique, donc Dieu est avec nous.
Alors, une enfance parisienne, une enfance provinciale.
Une enfance Castelroussine, une enfance provinciale, donc à Châteauroux. Une enfance heureuse, en fait, dans une petite ville de province où, en fait, j'ai pu vraiment vivre tout ce que les enfants doivent vivre, c'est-à-dire être dehors, avoir des amis, faire beaucoup de mobylette, avoir toute la latitude en fait pour, je trouve, oui, pour pouvoir, je sais pas, avoir du plaisir, assumer mes désirs, être à la fois dans une famille choyée et en même temps déjà être très libre. Mais je crois que ça, c'est vraiment la vie de province qui permet ça. Voilà, une vie heureuse jusqu'à 16 ans et demi à Paris, à Châteauroux, année de l'obtention du bac. Et je suis l'aînée d'une fratrie de 6.
Et la danse, elle arrive à quel moment
La
alors?
danse, elle arrive jeune, je crois, vers 12-13 ans, un petit peu comme elle arrive dans toutes les familles bourgeoises pour les petites filles.
Elle arrive plus tôt généralement pour les petites filles dans les familles
Oui.
bourgeoises.
Alors peut-être je me trompe de date, mais enfin d'âge, mais je dirais entre 10-12 ans. La danse une à deux fois par semaine avec un professeur que j'aimais beaucoup, avec qui j'ai encore parfois des contacts, Christian Comte, sa femme Martine Chaumet, étoile à l'époque au London Festival Ballet. Et là, un amour pour eux, un amour pour la musique, un amour pour la discipline aussi et l'engagement. Dans cette discipline-là, j'ai commencé avec ma sœur Anne, qui elle n'aimait pas ou peut-être n'était pas assez aimée par ce prof. Il y avait aussi, je me souviens de la sévérité de ce prof. Voilà, Anne a vite arrêté, moi j'ai continué.
Professeur de danse classique.
Oui, professeur de danse classique, il avait été maître de ballet au Ballet du Rhin. Quelqu'un qui a eu un chemin assez à part aussi dans le classique, c'est-à-dire n'a jamais sans doute été reconnue peut-être à la mesure de son talent, mais a continué et continue d'avoir une compagnie semi-professionnelle maintenant entre Châteauroux et Bordeaux, je crois. Enfin, ce sont deux personnes qui m'ont absolument donné l'amour de la danse et de l'effort physique et aussi, encore une fois, d'un grand rapport de plaisir. D'abord, c'était lié là à la musique, je crois. Mais voilà, c'est une formation forte. C'est eux qui m'ont décidé... C'est eux qui m'ont proposé de devenir danseuse. Bon, il y a eu une forme de lutte ou de difficulté avec mon père, qui, en tant qu'émigré, n'avait pas du tout envie que sa fille aînée, entre guillemets, gaspille ses possibilités de faire des études et d'avoir un métier plus stable, parce que j'aimais aussi beaucoup les études. Mais ces gens m'ont vraiment donné une envie, voilà, qui finalement a couru jusqu'à maintenant. Et sur cette enfance aussi, je dois signaler que très tôt, il y a eu un amour de la dépense. Donc la danse remplissait ça. Il y avait aussi un grand goût pour le sport. Donc j'ai fait 10 ans de handball dans une équipe qui s'appelle la Berrichonne, dont j'étais capitaine. Et avec ma sœur Anne, encore une fois, on alternait le rôle de capitaine et le rôle d'ailier gauche. Donc là, j'ai des grands souvenirs aussi de bandes à nouveau, de groupes qui étaient ensemble pour gagner. Et je donnerai une dernière caractéristique en dehors d'une fratrie heureuse et d'une enfance avec beaucoup d'amis. Une dernière note, c'est qu'il y avait à côté de chez nous une galerie d'art contemporain tenue à l'époque par Dominique Marchès, qui est aujourd'hui le directeur du Centre d'art de Chamarandes. Et très tôt, en allant à mon cours de danse, je voyais cette galerie et je me demandais ce que c'était, ce qui se passait à l'intérieur. Je trouvais ça moche, je ne comprenais rien. Là, j'avais effectivement 10-12 ans, et un petit peu comme je suis restée, je me dis, je vais rentrer pour poser une question, parce que je ne comprends rien. Et je suis rentrée en disant, je ne comprends pas du tout ce que vous montrez, qu'est-ce que c'est ? Ça a été mon premier contact avec l'art contemporain, avec Dominique Marchès, qui m'invite maintenant à Chamarandes à faire une résidence, donc qui est vraiment dans l'actualité. Et je peux dire que là, jusqu'à 16 ans, j'y ai passé, non pas tout mon temps, mais très régulièrement du temps. Et j'ai rencontré mes premiers amis, on va dire, artistes. Donc aujourd'hui, Richard Foguet. Voilà, donc il y a eu des choses qui se sont vraiment ancrées à Châteauroux et qui finalement tirent leur fil encore aujourd'hui. Mais je dirais une enfance heureuse, je pense qu'il m'a permis aussi d'être assez stable au moment des difficultés de l'adolescence et surtout du début de la vie de danseuse.
À quel moment, Emmanueline, vous quittez la danse classique, donc cette formation de départ, d'origine, pour vous orienter vers la danse contemporaine, ou peut-être êtes-vous passée par la danse jazz ou la danse moderne ?
Alors, pas de danse jazz, je dirais la danse moderne. Entre 17 et 20 ans, j'ai continué dans un cours de classique par jour à Paris, en même temps que je faisais des études de philosophie. Et je pense que le fait, à ce moment-là, de faire des études de philosophie, notamment le cours d'esthétique, m'a fait découvrir cette année-là le Land Art, l'œuvre de Cage. Je me souviens quand même de grandes découvertes pour moi. Et je me suis dit, mais il y a un endroit dans la danse classique qui n'est pas en phase avec ce que je suis en train de découvrir esthétiquement ou intellectuellement. Donc j'ai commencé à prendre des cours chez Peter Goss, des cours donc plutôt dans la veine de José Limón, plutôt de la danse effectivement moderne. J'étais déjà très très heureuse de ce que je vivais là. Un rapport au sol différent, un rapport à des musiques aussi plus d'aujourd'hui, et une forme de délier et de rondeur que je commençais moi de trouver comme interprète classique, mais qui ne semblait pas du tout être non plus ce à quoi une ballerine était de toute façon destinée. Donc entre 17 et 20 ans, le début de la danse moderne, et je commence à passer, et je passe l'audition pour Moudra, l'école de Maurice Béjart à Bruxelles, dans laquelle je rentre à 20 ans. Donc je crois que c'était en 84, voilà, c'était l'année de mes 20-21 ans. Donc 3 ans parisienne et ensuite 3 ans bruxelloise, belge. Je fais 1 an à Moudra, quelque chose qui me forme beaucoup. J'avais vraiment le sentiment de ne pas avoir assez travaillé techniquement, d'avoir un retard technique. Ça c'était, je pense, tout à fait vrai, tout à fait juste. Et puis j'avais envie d'avaler beaucoup de choses. Donc je me souviens de la pub, du flyer, enfin de la plaquette de Moudra, c'était Moudra, l'école de Maurice Béjart, pour les interprètes du XXe siècle, comme son ballet à l'époque était appelé ballet du XXe siècle, avec des photos où les gens faisaient du rythme, du théâtre avec des masques, de la danse classique, du répertoire, du pas de deux, de la danse moderne, moi je n'employais que ce mot-là, et en même temps un lien avec la compagnie de Béjart. Donc j'étais, à l'époque, j'étais déjà beaucoup moins intéressée par les chorégraphies de Béjart, par contre j'étais intéressée par le fait de recevoir une éducation pluridisciplinaire, j'avais vraiment envie d'être complètement immergée là-dedans. Donc une première année incroyablement difficile, mais en même temps incroyablement riche. Donc je me souviens de tous les 3 mois, le passage de Béjart parmi les troupes, et les filles et moi, on était toujours trop grosses et ça n'allait. Enfin, c'était vraiment pour les filles, c'était vraiment assez terrible. Je me souviens de Myriam Le Breton, interprète aujourd'hui de Boris Charmatz ou d'Hervé Robe il y a quelques années, et de Vincent Dupont aussi, pleurant. Elle était en 3e année et elle pleurait tous les jours tellement c'était dur. Moi, je me souviens que je pleurais pas, mais j'étais quand même pas très heureuse. Et du coup, comme j'étais venue pour commencer, il y avait aussi dans cette pub cours d'improvisation et de chorégraphie. Donc ça m'avait marqué et j'avais absolument envie de connaître ça. Personne n'enseignait ça à Paris. Et j'étais très déçue parce qu'en fait, ça se résumait le samedi après-midi à 14h, une fois qu'on était bien cuit par une semaine où on avait fait de 9h à 8h de la danse à fond. Le samedi après-midi, à partir de 14h, on nous donnait un studio et librement, on avait le droit d'être là. Donc, et c'était ça le cours d'improvisation et de chorégraphie. Et personne ne nous accompagnait. Donc en fait, au mensonge, ou en tout cas, aveu d'incapacité à conduire ça. Et comme j'étais venue aussi pour ça, il y avait dans le ballet du XXe siècle un danseur frustré aussi, qui s'appelait José Besprosvani, qui avait fait Moudra quelques années avant, qui j'avais sympathisé dans la cantine. Et on s'était dit, on va faire une pièce ensemble, moi voilà, j'apprendrai peut-être à chorégraphier comme ça. C'était la première pièce donc, que j'ai signée, co-signée avec José, qui s'appelle Momentum, essai sur le balancement, et donc ça se passait, on n'a pas réveillé, c'est le nom du jus de fruits qui est en face de moi, on a répété le soir au conservatoire de Bruxelles, dans Bruxelles, de 8h à minuit, pendant 4 mois pour faire cette pièce. Pièce qui a eu une forme de succès à l'époque, donc en 84. Exactement, puisqu'on l'a tourné pendant 1 an et demi en Belgique et aux Pays-Bas. C'est ce qui fait que la 2e année, j'ai pas continué Moudra, parce que j'étais déjà un petit peu engagée dans un travail chorégraphique et de tournée, et qu'il me semblait qu'il fallait continuer ainsi. Mais voilà, ça a été vraiment des caps successifs. En fait, en venant chez Béjart pour une formation pluridisciplinaire, je m'aperçois qu'elle est pas dans la complétude à laquelle je pensais, et finalement, je complète ma propre formation en commençant de faire une pièce. Et c'est vrai que cet essai sur le balancement, donc il y avait aussi une espèce d'attirance pour les États-Unis. J'avais lu le Danseur et la danse de Cunningham. Je venais juste de découvrir Cage à la fac. On était immergés, nous, à Moudra, dans l'univers de Martha Graham. José était immergé dans le Sacre du printemps et le Boléro de Maurice Béjart. Et en fait, il y a eu une espèce de réaction dans laquelle était déjà Anne-Thérèse de Kersmacher, puisqu'elle rentrait de New York 2 ans avant, elle avait fait Phase, elle travaillait avec Steve Reich, et c'est vrai que là...
Elle-même était passée par Moudra.
Ah oui, oui, oui. Elle rentrait, elle venait parfois à la cantine, je me souviens, avec Michel-Anne Demey, voilà. Elle était en train de commencer à Bruxelles. Et c'est vrai qu'il y avait une réaction, enfin moi, je sentais que je devenais américaine au milieu d'une formation très française ou américaine viscérale, Martha Graham, et je commençais à virer côté les chorégraphes abstraits. Voilà, c'était aussi, je pense, vraiment une réaction aussi à l'école.
Première pièce, donc, elle est co-signée. Oui. Deuxième pièce, elle est aussi co-signée, c'est Made of.
Oui. Alors là, c'est quelques années après, 93, ou...
oui, 93,
chez Hervé Robe.
Hervé Robe et Rachid Ouramdane.
Oui, alors là aussi, un grand moment, enfin un long moment de vie et d'amitié artistique auprès d'Hervé Robe. En fait, la rencontre se fait en 91, Hervé avait lui-même fait Moudra, m'avait proposé un premier travail que j'avais décliné parce qu'il n'était pas payé à l'époque. Donc je le retrouve simplement en 90-91 pour Appassionata, la première pièce qu'on fait ensemble et qu'on répète justement au CNDC d'Angers. Donc une première pièce très heureuse aussi, enfin, dans le travail avec lui. Et quelques années après, après Factory, pièce d'Hervé, dans laquelle il avait invité Richard Deacon, le sculpteur anglais, à venir faire, non pas la scénographie, mais donner des pièces. Ils ont ensemble co-signé cette pièce. Donc Factory, c'est un moment important pour moi comme interprète. J'y rencontre Rachid Ouramdane, qui venait de faire le CNDC, donc on sort du CNDC pour venir faire Factory. J'y rencontre Christian Rizzo, qui cherchait aussi du travail. Et la deuxième fille, c'était Françoise Rognerune. Et c'est une pièce clé, je pense, pour nous tous, puisque on s'aperçoit, aussi par la présence de ce plasticien, qu'il y a d'autres façons d'écrire la danse, d'autres façons de partager le plateau avec des spectateurs, puisqu'Hervé et Richard avaient eu l'idée d'inclure les spectateurs au même endroit que les danseurs, au même endroit aussi que les sculptures. Et à l'issue de Factory, qui a été vraiment une grande aventure pour nous tous, pour Yves Godin aussi, éclairagiste, Hervé nous propose une sorte de déclinaison d'une variation, si on parle en termes classiques. Et donc, il propose Madoff, il écrit donc une phrase chorégraphique, et il propose à Rachid et à moi, à partir de cette phrase qu'il nous donne, d'écrire un solo. Donc la pièce est construite comme ça, on danse ensemble cette première phrase commune, et ensuite se décline pour Rachid et pour moi ce qu'on a fait seul. Donc là, c'est vraiment la première étape, je dirais, enfin, une deuxième étape qui m'a amené à la solitude de Mua ensuite, c'est qu'il accompagne, il donne du vocabulaire, il donne aussi de l'argent. À l'époque, il était en résidence à la ferme du Buisson, donc en août 93, je passe 3 semaines à faire ma propre partition, et on se retrouve en septembre. Et je crois que la première de Madoff, c'est dans les îles de danse, au Théâtre de la Cité Internationale, en novembre 93, quelque chose comme ça. Vraiment un moment très important d'accompagnement aussi, pour pouvoir oser faire
être
quelque
seul.
Chose. Oui,
oser. Et vous êtes seul un an après,
ouais.
C'est Mua, donc le titre que j'ai donné à notre entretien d'aujourd'hui. Mua, pièce de 94, un solo sur le mode, une apparition sur le mode de la disparition, puisque c'est un solo dans l'obscurité. Vous étiez donc interprète à cette époque-là. Alors, à quel moment vous passez à la chorégraphie, et que signifie ce passage à la chorégraphie ?
Alors moi, je ne sais pas quand je suis exactement passée à la chorégraphie. C'est-à-dire, Mua, je suis encore interprète d'une chose, et j'écris une chose vraiment sur... qui est au cœur de plusieurs expériences personnelles. Donc, il y a une expérience importante qui est le fait d'avoir une bourse Villa Médicis sur les murs cette année-là, aidée en cela d'ailleurs par Anita Mathieu, qui me propose à l'époque, puisqu'elle est à la ferme du Buisson, est-ce que tu n'as pas envie de partir à l'étranger, travailler seule ? Je crois qu'elle avait aimé ma présence dans Factory, la façon dont je m'investissais. Moi, je n'avais pas d'idée particulière, sauf que j'avais envie d'aller découvrir le pays de mon père, au Vietnam. Donc j'ai créé un projet dont le prétexte est la danse, et puis dont en fait le sous-texte est vraiment mon envie de connaître ce pays, et puis mon envie aussi de me sortir d'un jeu JE qui est toujours autorisé par quelqu'un d'autre, autorisé par Hervé Robe, autorisé avant par Odile Duboc dans Insurrection. Donc l'envie quand même de me sortir d'une forme de tutelle artistique, l'envie aussi de me sortir, je pense de grandir, c'est-à-dire de connaître le pays de ce père, en même temps que c'est l'année de mon divorce. J'ai été mariée 3 ans avant, quelque chose ne fonctionne pas radicalement dans ce mariage, dont la danse est certainement une raison, un cœur, je pense, fondamentalement. Et cette année-là, 94, le 9 février 94, je divorce de l'homme que j'avais épousé en 89. Donc toute une façon de s'extraire ou de se... Enfin, Mua, c'est 94, c'est l'année où je m'extrais de quelque chose, de valeur plus ancienne pour moi, enfin, ou de valeur dont je voulais sortir. Et quand Anita Mathieu me dit « Mais est-ce que tu veux partir quelque part pour faire un travail ?» Évidemment, c'est le Vietnam qui s'impose. J'y passe l'été, un été difficile et en même temps merveilleux, parce que c'était un été de grande séparation, le fait de divorcer. Et surtout le fait de rencontrer ce pays d'où je suis issue, enfin dont mon père est issu, mais sur lequel il y a eu un silence absolu pendant 30 ans, enfin j'avais 31 ans à l'époque, et il était impossible d'avoir des détails sur ce pays, sur l'enfance de papa, sur, euh, sur ce qu'il avait vécu, sur pourquoi il était parti. Donc là, une vraie douleur à l'époque de découvrir ça, et en même temps une vraie joie, c'est-à-dire comprendre en fait d'où cet homme était issu, d'où moi je viens aussi. J'avais envie d'aller au Vietnam pour connaître ce pays qui avait été effectivement tenu sous silence. Et ce que j'ai découvert, c'est un pays extrêmement joyeux, très amnésique en fait de son passé, j'ai trouvé, de la guerre, du rapport avec les Américains, avec les Français. Un pays extrêmement jeune, parce que je crois que 75% a... Non, peut-être je me trompe, mais à moins de 15 ans, non, c'est pas possible. Mais un pays extrêmement, extrêmement jeune et qui aime rire. Donc à la fois, finalement, un grand soulagement de rencontrer un pays heureux, et en même temps, une compréhension de d'où moi je venais, de mon propre enracinement. J'avais amené d'ailleurs à l'époque, avec moi, le visible et l'invisible. Je ne me souviens pas pourquoi j'ai amené ce livre. Et il m'a accompagné en fait comme un livre de chevet, et j'avais l'impression de lire un journal de bord, enfin de lire mon journal de bord au Vietnam. C'est-à-dire, je ne sais plus la phrase exacte de Maurice Merleau-Ponty là-dedans, mais je crois que c'est je suis, enfin mon corps et le monde, nous sommes de la même chair. Alors évidemment, ce n'est pas écrit comme ça, mais la chair du monde, je suis de la même chair que la chair du monde, et mon regard, le fait d'ouvrir les yeux, décrit cette transparence ou connecte cette porosité, cette transparence entre mon corps et la chair du monde. Et je me sentais absolument dans cet état de fusion dans ce pays. C'est-à-dire, je comprenais pourquoi je dormais peu tout en étant avec beaucoup d'énergie. Dans ce pays, on se lève tôt et on est toujours en forme d'une certaine façon. Je comprenais aussi ce rapport à la nourriture en mangeant souvent, mais peu. Donc ça avait été un peu un régime de danseuse, mais ça m'allait aussi très très bien. Je comprenais aussi que je me sentais très bien dans l'humidité, dans l'eau. Il y avait une sorte de complétude ou de perfection physique dans laquelle je me sentais, qui était quand même très très étonnante. Enfin, je me suis sentie physiquement en phase tout de suite. J'ai en plus évidemment vu des gens qui ont la même tête que moi. Et Mua là-dedans s'est tramé très simplement dans le fait que je prenais connaissance d'une chose qui m'avait faite 30 ans avant, 40 ans avant, 50 ans avant, par-delà la parole, dans silence répété en fait de mon père. Et juste pour terminer, je dirais, sur le Vietnam, on y est tous retournés, enfin les enfants et mon père, l'année dernière, donc ça faisait 53 ans que lui n'était pas allé là. Donc une boucle vietnamienne par laquelle est passé Mua. Et Mua, c'est danse en vietnamien. Alors Mua, pour moi, c'est évidemment une connexion intime à moi-même. C'est clair, hein, c'est l'endroit où je commence de dire je. C'est l'endroit donc où, en tant qu'interprète, je me dis qu'est-ce que je suis sans le chorégraphe. Et c'est aussi une pièce critique, une pièce qui dit mais je... Ce que je vois sur les plateaux ne me satisfait pas, c'est-à-dire une forme de dépense de lumière, dépense d'artifice sur scène, dépense de costume, dépense de mots, qui est aussi une défense. Et je ne voyais pas où se situait vraiment le projet chorégraphique. Je ne comprenais plus en fait aussi pourquoi moi je m'agitais autant sur les scènes, qu'est-ce qui faisait que je bougeais tant, pourquoi on me faisait tant bouger. Donc il y avait une volonté critique dans Mua, d'enlever des choses pour voir qu'est-ce qui reste à la danse ou qu'est-ce qui reste. C'est une pièce dans laquelle j'aime revenir pour vérifier ce que j'ai abandonné comme piste ou ce que j'ai creusé. Et c'est vrai que si je devais donner une caractéristique à Mua, c'était le fait d'avoir posé une question à un éclairagiste, Yves Godin, une même question à un compositeur, Casper Teplitz, de m'être posé cette question, c'est qu'est-ce qu'il y a avant l'apparition du mouvement, avant l'apparition du corps, donc qu'est-ce qu'il y a avant la musique, qu'est-ce qu'il y a avant la lumière, et que chacun ait répondu personnellement à cette question. Et je crois que c'est resté ma façon de travailler.
Laurent Goumard s'entretenait avec Emmanuel Luyn, prise de son Carole Sans Devoir, réalisation Viviane Noël. Demain, tout contre.